Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute!
Un jour, Jésus a dit à ses disciples, « Il y en a quelques-uns parmi vous qui vont voir le royaume venir avec puissance. » Ça nous dit que 6 jours plus tard, Jésus était sur une montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Et ils ont vécu ce que nous appelons aujourd'hui le monde de la transfiguration. Le moment où Jésus a été transformé, a changé d'aspect devant Pierre, Jean et Jacques. Et tout d'un coup, 2 personnages de l'Ancien Testament ont apparu et qui s'entretenaient avec Jésus. Ça nous dit que ça a été un moment vraiment particulier où même un des disciples a dit « Hey, ça serait bon qu'on reste ici, on va mettre des tentes, puis on va camper ici, on va faire du camping un peu. » Et ça nous dit que lorsque ce moment-là a été terminé, qu'ils sont descendus de la montagne, le mont de la Transfiguration, ils sont arrivés en bas, et il y avait une foule qui les attendait. Et il y avait un petit peu de brouhaha parce qu'il y avait un père qui avait amené son fils qui était possédé d'un esprit muet. Et il avait demandé aux disciples de Jésus de chasser cet esprit-là, et les disciples n'avaient pas été en mesure de le faire. Et finalement, Jésus rencontre le Père, et là, ça nous dit qu'aussitôt que l'enfant a vu Jésus, que l'esprit l'a agité avec vraiment violence. Et Jésus s'est tourné vers le Père, puis il a dit au Père, il dit, ça fait combien de temps que ça y arrive? Ah, il dit, depuis son enfance. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, le Père s'écrie à Jésus, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et finalement, Jésus voit la foule qui arrive, qui accourt, et à ce moment-là, il menace l'esprit impur et dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, quitte le corps de cet enfant. Ça dit qu'il est sorti en poussant des cris et en agitant l'enfant avec une grande violence. Et finalement, l'enfant est devenu comme mort. Et les gens pensaient qu'il était mort. Et finalement, Jésus l'a pris par la main, l'a fait lever. Et il était bel et bien vivant et libéré. Et puis, ça nous dit que les disciples sont venus vers Jésus et ont dit à Jésus, « Pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon-là? » Parce que pendant qu'il y en avait 3 sur la montagne avec Jésus pour vivre la transfiguration, il y en avait le reste, les 9 étaient en bas. Hein. Ils essayaient de chasser un esprit et ils n'ont pas été capables de le faire. Fait qu'ils viennent voir Jésus en particulier et ils disent, « Pourquoi on n'a pas été capables, nous autres, de le chasser? » Puis Jésus va répondre la réponse que nous connaissons tous, qui est, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Certains textes aussi ont et le jeûne, la prière et le jeûne. Donc, ils vivent cette expérience-là, vraiment, cette expérience particulière. Et ils étaient en fait en direction, ils étaient partis du nord du pays, ils s'en allaient vers Capernaum. Ils étaient en marche depuis plusieurs jours vers Capernaum. Ça nous dit qu'après cet événement-là, après avoir posé cette question-là à Jésus, ça nous dit qu'ils sont partis de là, ils ont traversé la Galilée parce que Jésus voulait enseigner ses disciples pendant ce temps-là. Et finalement, ils arrivent à Capernaum. Pourquoi Capernaum? C'était le siège social du ministère de Jésus. C'était là où il habitait souvent, dans la maison de Pierre. Et puis, c'était vraiment reconnu comme étant son bastion, l'endroit où il se retrouvait régulièrement ou qu'il revenait régulièrement. Ça nous dit, lorsqu'il est arrivé à la maison, on pense que c'est la maison de Pierre, Jésus va poser une question à ses disciples. Et vous avez sûrement déjà lu ça, moi, normalement que vous avez lu les Écritures. Jésus va dire, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Et là, on arrive, alors qu'ils sont là assis, il y a un enfant sur les genoux de Jésus. Là, Jésus vient de leur enseigner un principe. L'apôtre Jean prend la parole et dit ceci. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Dites avec moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Est-ce que venez-vous juste de lire la même chose que je viens de lire? Oui. Est-ce que vous réalisez les implications de ce qu'on vient de lire et ce qui est à l'écran présentement? On est avant la crucifixion, avant la résurrection, on est avant la Pentecôte, avant l'envoi du Saint-Esprit, et il y avait un homme qui chassait des démons au nom de Jésus pendant que Jésus exerçait son ministère sur terre, en parallèle, que les disciples ne connaissaient pas. Vous rappelez-vous de quoi les disciples parlaient en chemin vers Capernaum? Qui est le plus grand? Ça nous dit qu'ils ont marché, ils marchaient, puis là, ce qu'il nous rapporte, Jean nous rapporte ici, c'est qu'alors qu'ils marchaient ensemble, ils discutaient de qui est le plus grand. À un moment donné, ils sont arrivés à un endroit où il y avait un attroupement. Et dans cet attroupement-là, il y avait quelque chose qui se passait d'anormal, parce qu'on peut sentir qu'il y avait quelque chose, il y avait une énergie dans la foule. Et ils se sont frayés un chemin pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Et ils ont été témoins d'une manifestation démoniaque. Et là, ils ont vu ce qu'on appelle au Québec un « nobody » qui est en train de faire la délivrance d'une personne au nom de leur maître. Ils ne les suivent pas, ils ne le connaissent pas. Puis il va dire, on a arrêté tout ça, on l'a empêché, on a dit non parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus va dire, ne l'empêchez pas, qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est quand même particulier de réaliser que du temps de Jésus, en parallèle de ce que Jésus est en train de vivre, il se passait déjà de l'effervescence du royaume. Moi, ça m'a frappé. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà réalisé. Et rappelez-vous, les disciples de Jésus faisaient, les autres faisaient partie de la gang à Jésus. Ils avaient essuyé un échec au pied du mont de la Transfiguration. Ils étaient arrivés, ils avaient essayé de chasser cet esprit muet et sot, ils n'avaient pas réussi. Jésus arrive, descend du mont de la Transfiguration, puis il règle la question. Il vient de voir Jésus. Comment ça qu'on n'a pas été capable? Ah, cette espèce-là sort par la prière et le jeûne. Il part de cet endroit-là, il arrive à un attroupement. Et là, il se fraye un chemin, il voit un inconnu qui est là, une manifestation démoniaque, et l'homme chasse le démon, chose qu'ils n'ont pas été capables de faire eux. C'est exactement ça que je voulais avoir comme réaction. Et là, si on met dans cette marche-là, la réflexion qui était là, qui est le plus grand? Comment on fait pour être le plus grand dans un groupe, normalement? Il faut performer pour avoir des promotions. Ils ont vécu un échec, ils se ramassent dans un attroupement, et là, ils voient quelqu'un qui ne vit pas ce que. Qui vit en fait ce qu'eux n'ont même pas réussi à faire, et leur réflexion en groupe, c'est qui le plus grand? À ce moment-là, si on parle de performance, c'était le nobody le plus grand. Et là, ils arrivent finalement dans la maison, puis là, Jésus dit, de quoi vous discutiez en chemin? Ils ont gardé silence, ils n'ont pas répondu. Je pense qu'il y avait des réflexions qui étaient là. Je ne sais pas pourquoi ils ont empêché cet homme-là de faire ce qu'il faisait là. Est-ce que c'était de l'insécurité? Est-ce que c'était de la jalousie? C'était parce qu'ils voulaient garder leur place pour avoir une place à droite et à gauche du trône de Jésus qui pensait qu'il était pour prendre place? Je vous laisse réfléchir à ça, mais je trouvais que c'était intéressant. Et Jésus va dire, « Qui n'est pas contre nous est pour nous. » Je pense que juste cette phrase-là est importante, même pour nous en 2018. De réaliser que dans le corps de Christ, que qui n'est pas contre nous est pour nous. Et les disciples avaient beaucoup de choses à apprendre du royaume. Il y avait plein de principes du royaume que les disciples ignoraient toujours, qu'ils avaient besoin d'apprendre. Ils étaient en fait des vrais disciples. Qu'est-ce que ça veut dire, disciples? Des étudiants, des élèves. Jésus était constamment en train, vous avez déjà remarqué ça, Jésus était constamment en train de bousculer l'entendement de ses disciples. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Toujours en train de les bouger, puis là, ils sont toujours en train de s'ajuster. Ils étaient des disciples, des appreneurs, des étudiants, des élèves. C'était étonnant de constater que dans le Nouveau Testament, à quel point Jésus et les apôtres qui ont écrit les épîtres ont dû enseigner, reprendre, corriger, rectifier les pensées et tout ça, qu'il y a beaucoup de confrontations d'idées dans les Écritures. Et tout ça a pu prendre place parce qu'il y avait de la place pour les échanges et les erreurs, et il y avait une communication ouverte. Les disciples se disaient, c'est qui le plus grand parmi nous? Et c'est pour ça que Jésus posait la question, de quoi vous parliez? Pourquoi? Parce qu'il voulait venir confronter leurs pensées. Et tant que la communication est ouverte, on est capable de confronter les idées préconçues. Et c'est exactement ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Ce que le Nouveau Testament nous enseigne, c'est que c'est important de suivre passionnément Jésus, mais avec un cœur ouvert pour apprendre. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils savent tout à propos de Dieu?
Pas pantoute,
OK. Mais malheureusement, souvent dans le corps de Christ, il y a des gens qui agissent et qui parlent comme s'ils n'avaient plus rien à apprendre. Beaucoup de pharisiens et de scribes au temps de Jésus étaient fermés d'esprit. Ils étaient très connaissants des Écritures, ils connaissaient très bien la Torah, mais lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, ils étaient prisonniers de leur théologie, de leur interprétation, et Jésus est devenu pour eux une pierre d'achoppement. Dans la vie chrétienne, c'est important de garder un cœur ouvert afin de toujours continuer à apprendre et de se rappeler que qui n'est pas contre nous est pour nous. Ça va prendre du sens au fur et à mesure que je vais avancer dans mon message. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Quelqu'un qui a une opinion différente de nous n'est pas nécessairement quelqu'un contre nous. On est appelé à toujours demeurer des disciples, des étudiants, d'avoir un cœur ouvert. Qui dit disciple, dit étude. Qui dit étude, dit recherche. Qui dit recherche, dit trouvaille. Et qui dit trouvaille, dit bonne trouvaille et moins bonne trouvaille. Régulièrement, des gens, les voient, me font part ou me font parvenir des informations qui circulent sur Internet. Et ça arrive là, « Hey Benoît, pasteur Benoît, j'ai vu telle chose, qu'est-ce que tu penses de ça? » Un vidéo par-ci, un site par-là, puis qu'est-ce que tu penses de Bethel, puis qu'est-ce que tu penses, il y a tels gens qui disent ça de Bethel et tout ça, et ça vient régulièrement vers moi. Et bien souvent, les gens m'envoient ça, puis ils veulent savoir ce que j'en pense, afin d'y voir plus clair. Parce que ça arrive parfois que certains d'entre vous êtes troublés par ce que vous voyez sur Internet, parce que vous visionnez sur Internet. Et j'aimerais vous donner ce matin, comme l'apôtre Paul l'aurait fait au premier siècle, un petit peu... Comment, moi, je gère ce genre de situation-là? Je ne parle pas du fait que les gens m'envoient des choses que je visionne, mais je parle de comment je gère des divergences d'opinion et des divergences de points de vue sur la théologie et sur la Bible. J'aimerais premièrement faire réaliser que dans la chrétienté dans laquelle vous vivez, vous vous dites chrétien, tout le monde ici se dit chrétien, donc dans la chrétienté, qui est le grand parapluie, il y a deux cultures dans notre chrétienté. Il y a la culture qu'on appelle la culture académique. C'est l'équivalent dans notre société, je pourrais dire, étudier une image. Il y a des gens qui, dans notre société québécoise, qui vont étudier, vont faire un baccalauréat, une maîtrise, doctorat, post-doctorat. C'est des gens de la haute société, éduqués. Ils aiment bien souvent les choses raffinées. C'est des gens qui vont aimer la musique classique, ils vont aimer les arts, ils vont aimer la nourriture bien présentée. Ils vont avoir des discours sur la politique, ils vont avoir une perspective globale sur la politique, ils vont avoir étudié la politique, l'histoire de la politique et tout ça. Donc, il y a la culture académique, c'est ces gens-là qui sont peut-être plus instruits. Et dans le milieu chrétien, il y a une culture académique, une culture théologique, une culture d'échange théologique. Et il y a plein de théologiens dans ce monde-là, la culture académique, la chrétienté, des théologiens que sûrement vous n'avez jamais entendu parler, mais qui sont, pour ceux et celles qui font partie de la culture académique, qui sont dans ce monde-là, ils connaissent ces théologiens-là comme étant des sommités, des gens extraordinaires à connaître. Donc, il y a toutes sortes de théologiens qui sont là avec des noms que peut-être vous ne connaissez pas aujourd'hui. Et tous les collèges bibliques sont du côté académique où on va étudier, on va regarder les différents points de vue, les différentes théologies. C'est un endroit dans la culture académique chrétienne où il y a de la place pour les débats, pour les échanges, pour chercher à comprendre ce que l'autre pense, que ce que moi je pense. Dans cette culture académique-là, il n'y a aucun problème à être en désaccord. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas de l'autre culture qu'on va parler tantôt. En fait, dans la culture académique, bien souvent, le désaccord est perçu comme une occasion d'apprendre ou d'instruire. Que si je rencontre un frère ou une sœur qui est en désaccord avec moi et qu'on est capable d'échanger, soit que je vais apprendre quelque chose dans cet échange-là, ou soit que c'est l'autre personne qui va apprendre quelque chose, mais dans notre échange, on va en sortir gagnant toutes les deux, dans la culture académique. Dans cette culture-là, académique chrétienne, le respect et l'honneur sont des valeurs importantes dans ce milieu-là. Pour être crédible dans ce milieu-là, tu dois honorer la pensée de la personne avec qui tu échanges. Il y a des livres qui sont écrits pour échanger les différents points de vue dans la culture académique. Il y a quelqu'un qui va écrire un livre en disant « Voici ma position, voici ce que je crois pour telle chose. » Un petit exemple sur l'eschatologie, ça va être un bon exemple. L'eschatologie, c'est tout ce qui est les choses de la fin des temps. Donc, il y a plein de choses qui circulent sur Internet sur la fin des temps. Mais dans le monde académique, il y a quelqu'un qui va écrire un livre, « Voici ma position, pourquoi je crois telle chose, comment je vois l'eschatologie, la fin des temps, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. » Et il va y avoir d'autres gens dans la culture académique qui vont écrire des livres pour répondre aux livres du premier. Et il va y avoir des échanges comme ça, puis c'est public, et on peut aller lire ça, et c'est le monde académique. Donc, l'importance dans ce milieu-là académique, c'est que si j'écris un livre pour parler de l'autre livre, c'est que je dois rapporter les propos de l'autre dans mon livre pour après ça exposer mon point de vue avec respect et expliquer pourquoi je crois ce que je crois. Vous me suivez jusque-là? Okay. Donc, dans ce milieu-là, c'est important pour garder sa crédibilité, d'honorer la pensée, même de ceux avec qui on est en désaccord. Et pour faire une démarche honnête dans la culture académique, on doit avoir une thèse, aller voir l'antithèse pour faire une synthèse. Ça, c'est ce que moi j'appelle personnellement, c'est mon discours à moi, mon vocabulaire, pour être honnête intellectuellement. On part toujours qu'un point de référence. Sur l'eschatologie, à titre d'exemple, on va partir avec un point de référence. Moi, mon point de référence avec lequel je pars, c'est Mario Mascotte. J'ai toujours entendu parler de Mario Mascotte depuis que je suis jeune, c'est Mario Mascotte. Ça, c'est mon point de référence, c'est ma thèse. Mais des fois, il y a lieu d'aller voir l'antithèse pour après ça faire une synthèse. Et ça se peut que je revienne à ma thèse du début en disant c'est ça qui est la vérité, ou ça se peut que je change mon point de vue. Mais dans le milieu académique, il y a cette démarche d'honnêteté intellectuelle de dire, avant de discréditer quelque chose que je ne connais pas, je vais prendre le temps d'étudier pour voir si c'est bon ou non, je vais avoir un respect pour l'autre point de vue. Les gens sont appelés à exposer leur point de vue de personnel et la raison pour laquelle ils croient ce qu'ils croient. Les gens vont dire, voici où j'en suis rendu, voici pourquoi je suis rendu là. Ils vont ouvrir la Bible, vont exposer leur point de vue. Ça, c'est le milieu académique. D'ailleurs, Jésus a vécu une expérience dans ce sens-là. Dans Luc, chapitre 2, versets 46 à 47, on peut lire ceci. Au bout de 3 jours, les parents de Jésus, Marie et Joseph, trouvèrent Jésus dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de l'intelligence de Jésus et de ses réponses. Donc, milieu académique. Ça, c'est la culture académique dans le milieu chrétien. Là où ça se gâte, c'est dans l'autre culture. Il y a ce qu'on appelle la culture populaire dans la chrétienté. La culture populaire, c'est comme si c'est l'équivalent de la société en général. La musique populaire, la nourriture populaire et la politique, comme les gens qui critiquent la politique, qui ne connaissent pas nécessairement comment ça fonctionne la politique, mais ils ont un avis sur la politique. Ils n'ont jamais étudié la politique, ils ne connaissent pas l'histoire de la politique, et ils ont des opinions bien arrêtées sur la politique, ils ont de la critique facile, mais ils manquent de perspective. Il y a des prédicateurs très connus dans la culture populaire, dans la culture populaire chrétienne, des Billy Graham, on le connaît bien, des Joel Osteen qu'on entend parler, des Bill Johnson, des Joyce Meyer, des Mario Mascotte, comme je parlais tantôt. Et dans cette culture populaire-là, il y a des églises, des croyances, des dénominations, des tensions, il y a des points de vue différents et tout ça. Puis, il y a surtout de la tension dans la culture populaire, dans la chrétienté. On grandit tous dans un bouillon, dans une culture chrétienne populaire. Vous avez grandi dans une... Veux pas, vous avez grandi dans une culture populaire. Et c'est votre point de référence la plupart du temps. Et comme on dit souvent, on ne peut pas mijoter 20 ans dans le bouillon de poulet sans goûter le poulet. Hein? Donc, la réalité, c'est qu'on goûte toujours le bouillon dans lequel on a mijoté. À titre d'exemple, moi, j'ai mijoté pendant plusieurs années dans mon enfance dans un bouillon baptiste. Il y a une partie de ma personnalité qui goûte le baptiste. Et c'est correct, ça a été une très bonne base dans ma vie. Une autre particularité de la culture populaire, c'est les gens qui font partie de cette culture-là sont bien souvent incapables d'accepter d'être en désaccord. Et c'est là que ça se corse. Il y a des gens qui, aussitôt, ils ont leur point de référence, puis aussitôt qu'ils sont confrontés par un autre point de vue, ils deviennent agressifs. Ils deviennent les défenseurs de leur point de vue, de leur point de référence. Et c'est la particularité de la culture populaire. Et souvent, le fait qu'on ne puisse pas être d'accord, qu'on ne puisse pas accepter le fait d'être en désaccord, souvent, ça justifie même le fait de manquer de respect à la contrepartie qu'on croit fautive. Donc, il y a beaucoup de conflits et de débats dans la chrétienté populaire. Et le problème avec ça, c'est depuis les années 90, moi, je trouve ça quand même étonnant, que quand j'ai fréquenté mon épouse Christine dans les années 90, on s'est écrit des lettres parce que l'Internet n'existait pas. Donc, j'ai fréquenté mon épouse dans le siècle dernier et on s'écrivait des lettres. Comme pendant des millénaires, ça s'est passé. Mais milieu des années 90, Internet est arrivé. Il y a des gens qui se disent « Ah, l'Internet n'a pas toujours existé. » Ben non, Jésus n'avait pas Messenger, Facebook et tout ça. Mais ça a beaucoup changé la dynamique dans le milieu chrétien, la culture, au niveau de la culture populaire, parce que l'Internet donne une plateforme à n'importe qui. Il y a eu un temps que, dans l'Église chrétienne, on avait les pasteurs qui prêchaient, on avait quelques livres qui circulaient, mais une simple personne qui voulait émettre son opinion n'avait pas vraiment de plateforme pour le faire. Aujourd'hui, n'importe qui peut se partir un blog, peut se partir un site Internet et faire des recherches, puis écrire les choses. Ils ne sont même pas redevables. C'est pas comme s'ils étaient dans une école biblique où ils étaient redevables par rapport à ce qu'ils écrivent. Donc, il va y avoir Facebook, il va y avoir YouTube, il va y avoir les blogs, il va y avoir toutes sortes de choses. Fait que là, il y a des vidéos qui circulent sur Internet. Et là, les gens m'en font part. « Hey, il y a telle chose, qu'est-ce que tu en penses, pasteur Benoît? Il y a telle chose. » Puis moi, la plupart du temps, quand les gens m'envoient ça, je n'ai pas tout le temps le temps d'aller voir ces choses-là. Mais quand je vais voir, ma façon, moi, de le voir, moi, je suis du côté académique. Fait que je vais regarder la vidéo, je vais commencer à regarder, puis là, je vais avoir un petit sourire. « OK, lui, il se positionne à telle place, c'est pour ça qu'il parle comme ça. » Mais il y a des gens qui vont écouter ça et vont dire « Eh mais, là, c'est grave, là, c'est… » Le fait d'avoir la connaissance, de comprendre okay, qu'est-ce qu'il y a derrière ça et tout ça, c'est comme « OK, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, je respecte son point de vue, je ne suis pas d'accord avec lui ou je suis d'accord avec lui, tout dépendant de ce qui se passe. » Mais ça m'aide, moi je suis du côté académique, parce que j'ai été au collège public et je suis un étudiant et je continue à étudier. Je suis respectueux aussi depuis des années sur le point de vue de quelqu'un d'autre. Quand j'arrive devant quelqu'un qui ne croit pas comme moi, j'ai été prendre des cours bibliques dans les collèges bibliques baptistes, sur l'homélétique entre autres, comment prêcher et tout. Je me suis assis avec des frères baptistes, puis on a commencé à échanger sur le point de vue théologique. Je pouvais sentir parfois une tension, mais on avait un échange, on était capable d'échanger à ce niveau-là. Et c'est toujours enrichissant. Mais le problème avec le côté de la culture populaire et tout l'Internet, c'est que souvent, il y a une fausse représentation des gens, des pasteurs, des propos, des arguments qui ont été tenus afin de jeter le discrédit sur la personne. Donc, j'entends régulièrement parler, entre autres, de, supposons, Bill Johnson. Des fois, j'ai compassion de Bill Johnson. Bill Johnson se fait scruter à la loupe, puis là, les gens cherchent le moindre petit défaut pour essayer de le discréditer. Puis, je ne suis pas en train de dire que toute la théologie à Bill Johnson, je suis d'accord avec toute sa théologie, mais je ne suis pas d'accord avec cette attitude de vouloir chercher tout le temps à discréditer. Même, ça va au point qu'on invente des faits pour discréditer cet homme-là. Il y a un de tes amis, Chris Vellotton, qui a dû prendre sa défense à un moment donné et dire « Là, il y a un méchant problème. Comment vous faites pour inventer des faits qui n'existent pas? Ça fait 30 ans que je connais le gars. Vous inventez des faits pour essayer de le discréditer. Comment vous faites pour dormir le soir en tant que chrétien? » Donc, il y a cette dynamique-là qui circule sur Internet. C'est important que vous soyez conscient de ça, de jeter le discrédit. Donc, dans le milieu de la culture populaire, vous allez retrouver des étiquettes qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ça, c'est un faux prophète. Ça, c'est un faux enseignant. Ça, c'est l'apostasie. Ça, c'est un hérétique. Ça, c'est une hérésie. Ça, c'est un antéchrist. Toute cette dimension, ce n'est pas des choses qu'on retrouve dans la culture académique. On comprend les concepts, on a une perspective plus générale. Personnellement, j'ai été à l'Institut biblique du Québec, le Collège biblique des APDC, et pour moi, ça a été une occasion énormément d'apprendre. J'ai fait ça pendant 9 ans à temps partiel, et j'ai réalisé souvent que l'ignorance justifie parfois l'arrogance dans le milieu chrétien. Il y a une certaine sécurité dans le fait d'être, d'avoir une ignorance. On a juste un point de référence, puis on défend notre point de référence, puis on peut devenir un petit peu même arrogant par rapport à ça. Mais la réalité, c'est que quand on a une plus grande perspective, on comprend mieux, on devient un petit peu plus calme à ce niveau-là, et on réalise, OK, il y a des questions qui demeurent sans réponse, et il y a des débats qui sont là depuis des siècles. On n'a pas besoin d'essayer de prétendre comme de quoi qu'on va régler ça ce matin. La réalité, c'est que ça fait des siècles que c'est dans l'Église. Donc, à titre d'exemple, dans le milieu académique, dernièrement, j'ai acheté ce livre-là. C'est en fait un commentaire biblique sur l'Apocalypse. Et il rapporte, la particularité de ce commentaire-là, c'est qu'il rapporte les quatre interprétations de l'Apocalypse. Saviez-vous qu'il y avait quatre interprétations? Donc, là, il y a des gens qui disent « Amen ». Quatre interprétations. Là, pour moi, c'est pas préoccupant. C'est juste la réalité. Ça, c'est le point de vue académique. Il y a quatre points de vue sur l'eschatologie. Et moi, j'en suis rendu à un point où, de toute façon, il y a des choses qui sont certaines. Est-ce que Jésus revient? Est-ce que Jésus revient bientôt? Plus bientôt que jamais, en tout cas. Donc, Jésus, il y a des choses qui sont certaines. Est-ce que Jésus est mort à la croix? Est-ce que Jésus est ressuscité entre les morts? Est-ce que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte? Est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit? Amen. Les bases sont là. Le reste, quand on commence à étudier, on réalise que c'est vraiment des domaines en particulier, ils sont limités, où il y a des divergences d'opinion. Qu'est-ce qui se passe après notre vie sur Terre? C'est un exemple. Il y a différents points de vue à ce niveau-là. Mais l'important, c'est qu'on doit être vigilant quant à ce qu'on visionne sur Internet et quant à ce qu'on y lit. Soyons lucides, frères et sœurs. Nul ne possède la vérité à part notre Maître Jésus. Amen. On est tous des disciples. Et j'aimerais vous encourager à adopter l'attitude des fils de Béré, des disciples de Béré, qui disaient « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » J'aime ce texte-là. Et je pense qu'on devrait, en tant que disciples de Jésus, avoir cette même attitude-là. Si, on devrait être des gens qui aimons les Écritures, qui aimons la parole et qui désirons l'étudier, échanger, apprendre, découvrir, comprendre, à écouter d'autres personnes qui ont un point de vue différent, mais toujours revenir aux Écritures et de voir, est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de me dire, mon frère ou ma sœur? Pour ceux et celles qui disent, en passant, il y a des gens des fois qui me disent, et j'entends parler des gens qui disent, « Ah, moi, je lis juste la Bible. Je lis aucun autre livre. C'est juste la Bible. Aucun livre chrétien, c'est la Bible. Moi, je suis un puriste, c'est la Bible. » OK? C'est important de reconnaître, si c'est votre cas, si c'est votre discours ce matin, c'est important d'avoir l'humilité de reconnaître que vous vivez avec votre interprétation de la Bible. Et que pour moi, personnellement, le fait de lire la Bible n'est pas nécessairement suffisant comme pour s'assurer d'avoir la bonne interprétation. Je ne suis pas en train de dire que la Bible n'est pas suffisante. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut vivre seulement avec notre interprétation et être dans l'erreur dans notre interprétation de la Bible. D'où l'importance d'être en contact avec des frères et sœurs et d'échanger. Moi, lorsque j'ouvre un livre, pour lire un livre chrétien, c'est comme moi, la manière je le vois, c'est comme si je m'assoyais avec le frère au bord de la table et qu'il me partage ce qu'il a découvert sur les Écritures. Est-ce que vous me comprenez? Pour moi, il n'y a aucun souci. J'ai aucun problème avec m'asseoir avec n'importe qui sur le globe terrestre pour échanger sur la théologie. Pour moi, d'ouvrir un livre, pour moi, ce n'est pas une menace. Mais en même temps, je suis un homme. Par contre, je ne passe pas mon temps à lire toutes sortes de livres puis je ne lis pas la parole. La parole a toujours la priorité. Et par la suite, je lis des livres juste pour avoir leur point de vue. Et souvent, le Seigneur a donné une perspective vraiment sur un certain domaine à une certaine personne. Et ma vie est enrichie par sa perspective que le Seigneur lui a donnée. Il faut se rappeler que les pharisiens connaissaient beaucoup de passages de la Torah par cœur. Mais ça ne les a pas empêchés, ça ne les a pas empêchés certains d'entre eux, du moins, de se tromper complètement en ce qui a trait à la personne de Jésus. Et Jésus va même dire à ces pharisiens-là, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jésus est en train de dire aux pharisiens, « Vous connaissez la Bible, vous connaissez la Torah, vous connaissez l'Ancien Testament. » Mais la réalité, c'est que vous êtes tellement emprisonné dans votre Torah et vous pensez que c'est ça qui vous donne la vie. Mais ce n'est pas ça qui donne la vie. Ce n'est pas la lecture de la Bible qui donne la vie. C'est le Saint-Esprit qui la rend vivante à nos cœurs qui donne la vie. Et Jésus va dire, « Je suis là, le prince de la vie devant vous. » Et vous ne le reconnaissez pas. Donc, ce qui peut paraître comme du purisme est en fait bien souvent de la fermeture face à l'opinion d'un frère ou d'une sœur à qui Dieu a pu éclairer certaines dimensions de sa parole. Dans la vie de n'importe quel chrétien, il est censé avoir ce que j'appelle un département des convictions et un département des questions. Tout disciple de Jésus en 2018 équilibré devrait avoir des éléments dans ces deux départements-là. Département des convictions, des choses qui sont claires. Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que c'est clair? Jésus est mort sur la croix. Jésus est venu sur la terre. C'est un personnage historique. Jésus a ressuscité notre les morts. Jésus a ressuscité des morts. Jésus a guéri des malades. Jésus va revenir. Jésus est vraiment... etc., etc. Là. Que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont des réalités incontournables. Il y a des choses qui sont là qui sont indéniables. Donc, le département des convictions, puis il y a le département des questionnements. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Levez la main, s'il y a des gens qui ont des questions au niveau de la Bible, la théologie, tout ça, là. C'est sain d'avoir des questions, d'avoir des incertitudes, des investigations, des réflexions en cours. Il y a des absolus, comme je disais, que... Il y a trois catégories normalement, là, les absolus, c'est les choses qui sont claires, qui sont non négociables. Jésus le Fils de Dieu, le salut par la grâce, la Bible et la parole de Dieu. Mais il y a des convictions, la fin des temps. Il y a des gens qui vont avoir une perspective, des gens vont avoir une autre perspective. Et ça se défend bien bibliquement aussi. Le rôle de la femme dans l'Église. Est-ce que la femme devrait prêcher, ne devrait pas prêcher? Ça, pour moi, c'est dans le domaine des convictions. Il y a les absolus, la conviction, puis il y a les préférences aussi, la troisième catégorie. Les préférences, c'est je préfère tel style de tradition, je préfère tel style de louange, je préfère telle chose, telle prédication. C'est des préférences. Mais on est censé avoir des absolus, des convictions et des préférences. Personnellement, en tant que pasteur de l'Eva, je trouve que c'est toujours préoccupant lorsque je rencontre des gens qui ne semblent avoir que des convictions et qui n'ont pas de questions. Ça devient des gens souvent qui sont intransigeants, des gens qui ne sont pas ouverts aux échanges ou qui se sentent menacés aussitôt que quelqu'un a un point de vue différent d'eux. Et d'ailleurs, ça nous a causé beaucoup de problèmes dans les années 80-90 entre certaines familles évangéliques au Québec d'avoir ce discours-là. Un discours très fermé au lieu d'avoir l'ouverture les uns envers les autres. Les gens qui n'ont que des convictions, ça m'amène vraiment à être un petit peu préoccupé pour eux. Soit que ces gens-là sont bornés, c'est-à-dire que ce qu'ils croient, c'est la vérité, puis là, ils sont juste là-dessus, ou soit qu'ils sont tout simplement ignorants, comme je l'étais avant de rentrer au collège biblique. Laissez-moi vous lire une partie de mon discours que j'ai fait à la graduation de l'IBQ, de l'Institut biblique du Québec. J'ai été demandé pour faire un discours à ma graduation devant tout le corps étudiant, le corps professoral, les parents et tout ça. Et je vais vous lire un segment. J'ai lu ça à Laval le samedi, le 6 mai 2006. Voici ce que j'ai mentionné. En fait, oui, le baccalauréat est bel et bien terminé pour plusieurs d'entre nous. Toutefois, s'il y a une chose que j'ai apprise lors de ces 9 dernières années, c'est que nous ne pouvons arrêter d'apprendre et d'étudier si nous désirons demeurer pertinents et utiles entre les mains de Dieu. Si quelqu'un cesse d'apprendre dans le ministère, il y a tout lieu de s'inquiéter pour lui ou pour elle. En fait, un des plus grands défis dans le ministère pastoral consiste, quant à moi, à demeurer une voix et à ne pas devenir un écho de quelqu'un d'autre. La seule façon de demeurer une voix, c'est en poursuivant nos études toute notre vie. Vous savez, on entre parfois à l'Institut biblique croyant tout connaître ou pensant en connaître quand même passablement, ce qui était mon cas. Moi, je pensais rentrer au collège biblique puis je pensais en connaître pas mal. Cependant, lorsque je regarde aux 9 dernières années que j'ai investi à étudier à l'IBQ, je dois avouer que j'ai appris énormément. En fait, une des leçons que j'ai apprises est celle de l'humilité. En effet, j'ai constaté que chaque cours suivi, bien qu'ils aient été de plus de 35 heures chacun, n'était en fait qu'une introduction au thème en question. Qu'il soit question de pneumatologie, de culture juive, d'hébreu biblique ou de théologie, chacune de ces thématiques pourrait être l'objet de projets de recherche d'une vie entière. Quelqu'un a déjà dit qu'une image vaut 1000 mots. Eh bien, voici l'image qui me vient à l'esprit lorsque je considère la formation que j'ai reçue à l'IBQ. C'est comme si j'avais passé mes 9 dernières années à me promener dans un long couloir, dont chaque côté était jonché de portes. Une après l'autre, nous les avons entrouvertes pour jeter un petit coup d'œil furtif tout en réalisant qu'il aurait été possible de passer des mois et même des années à explorer chacune de ces pièces. À chaque fois que j'abordais un nouveau thème, je constatais de nouveau mon ignorance. L'IBQ m'a appris, entre autres, l'humilité. D'ailleurs, presque chacun de mes travaux de recherche contenait une phrase du genre « De toute évidence, ce travail ne se veut en aucun cas être exhaustif. » Trois petits points. En d'autres mots, plus nous étudions et plus nous devenons conscients de notre ignorance et de notre besoin de poursuivre nos études pour le restant de notre vie. Si vous n'avez que des convictions dans votre vie, je vous invite et je vous encourage à vous inscrire au Collège biblique. Et vous allez commencer à renflouer le département de vos questions. Soit dit en passant, c'est très sain d'avoir des questions, comme je le mentionnais auparavant. Ça garde une saine tension dans notre vie chrétienne, ça pique notre curiosité, ça garde notre intérêt et on fait des recherches. Quand tu n'as plus de questions, tu cesses d'être un disciple. Je vais répéter ça. Quand tu n'as plus de questions, tu arrêtes d'être un disciple. Parce que quand tu n'as plus de questions, tu n'as plus besoin d'un maître pour t'enseigner, un enseignant. Il y a des questions qui demeurent sans réponse pour le moment. Il faut être assez humble pour le reconnaître tout simplement. Un principe clé, quant à moi, c'est d'être capable d'embrasser le mystère. Il y a des gens, et pour moi, dans le passé, ça m'est arrivé aussi, je n'étais pas capable de dire quatre mots vraiment, vraiment difficiles à prononcer. Je ne sais pas. Hey, moi, je suis un pasteur, je suis censé avoir toutes les réponses. Non. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais quand je n'ai pas la réponse, je peux vous donner des questions, par exemple. J'en ai des questions. J'ai beaucoup de questions. Donc, d'être en paix lorsque même on n'a pas toutes les réponses, d'embrasser ce que j'appelle le mystère, savoir dire les mots qui font peur, je ne sais juste pas par rapport à ça. Une chose est certaine, c'est que Jésus détient toute la vérité, car il est la vérité. Jésus détient toute la théologie parfaite. Et une chose que je sais, c'est comme disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Un jour, là, toutes mes questions vont se transférer dans mon département des convictions. Est-ce que ça va être sur cette terre? Je ne crois pas, mais je continue à étudier. L'importance de savoir discerner ce qui est vraiment aussi une menace, c'est un principe important. Il y a des gens qui, comme je disais, que vous allez... Parce que là, je sais que je suis très... Là, je suis quasiment dans l'apologétique, là. Puis juste que vous soyez conscients que je sais que je ne suis pas dans l'exhortation, puis Jésus vous aime et tout ça, mais c'est très pertinent pour ceux et celles qui surfent sur Internet. Et l'apôtre Paul, dans ses épîtres, prenait le temps d'exhorter le peuple, d'exhorter les frères et sœurs en disant... Il y a des fausses doctrines qui circulent, il y a des choses qui circulent. Voici comment on doit dealer avec ces choses-là, comment on doit dealer avec un frère qui enseigne une fausse doctrine et tout ça. L'apôtre Paul enseignait là-dessus, c'est ce que je fais ce matin. Donc, l'importance de savoir discerner ce qui est vraiment une menace. Des gens qui peuvent avoir des points de vue différents sur l'eschatologie, il y a une différence d'avoir une interprétation eschatologique différente et de soutenir que Jésus est seulement un prophète, qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui voient une différence entre les deux. L'eschatologie, c'est une chose, mais que de dire qu'on remet en question l'identité, la venue de Jésus et tout ça, là, on est dans un autre domaine. On est, donc, de bien discerner ce qui est vraiment une menace. Moi, je pense, frères et sœurs, que c'est extrêmement enrichissant d'être capable de s'asseoir avec un café, ouvrir la parole et de pouvoir échanger avec des frères et sœurs sur nos points de vue. Il y a des gens qui deviennent très nerveux et très inconfortables lorsqu'ils commencent à avoir un point de vue qui diverge du leur. Mais j'aimerais vous dire que là où ça brasse, c'est là où ça se passe. Soit que vous allez être une bénédiction pour votre frère, soit que c'est votre frère qui va être une bénédiction pour vous ou votre sœur. Donc, pour moi, c'est très important. Vous devriez venir faire un tour à l'espace Vie Abondante lorsqu'on dîne ensemble les mardis. Et parfois, pasteur Michel Rabillard et pasteur André Favreau, on s'assoit et on commence à parler sur des sujets théologiques. Et des fois, on n'est pas tout le temps d'accord. Mais c'est tellement enrichissant. Puis on va poser des questions. Puis tant qu'on garde l'attitude, notre attitude, notre sort, on peut apprendre les uns des autres. Pas nécessairement être d'accord. Mais je vais revenir dans quelques instants par rapport à ça. Donc, il y a vraiment des avantages à rester. Comme je dis, un disciple devrait être quelqu'un qui avance avec le Seigneur avec un cœur ouvert. Une main tendue, un cœur ouvert pour l'échange. Quelques principes clés, frères et sœurs, pour garder sa paix dans notre cœur en tant que disciple. J'aimerais vous encourager encore une fois. Frères et sœurs, lisez étudier et méditer les Écritures. C'est ce qui va vous permettre d'avoir du discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Vraiment, prenez le temps de méditer la parole, de trouver du temps pour la lire, la méditer, l'étudier. Ayez des frères et des sœurs avec qui vous pouvez échanger sur la théologie, avec qui vous allez pouvoir vraiment apprendre, échanger ce que vous découvrez et de vraiment confronter vos idées. C'est sain de vivre ça. Soyez aussi à l'écoute du Saint-Esprit et examinez les fruits qui découlent de votre surfing sur Internet. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà vécu ça, mais moi, j'arrive parfois sur des sites Internet, je commence à lire et à l'intérieur, je me sens vraiment inconfortable. Et c'est négatif, c'est loin d'être positif, c'est négatif. Et là, je commence à lire le texte, puis là, c'est de la critique, puis là, c'est du dénigrement, puis là, c'est un siècle, c'est un hérétique. Puis là, à l'intérieur, je sens l'ambiance. Savez-vous ce que je fais à ce moment-là? On ferme la fenêtre, mais vous pouvez trouver des sites Internet du côté de la culture académique, et où ils vont exposer les différents points de vue et qui vont vous aider à faire thèse, antithèse, synthèse. Mais la culture populaire, c'est une culture qui condamne, qui rejette, qui repousse, parce qu'ils ne croient pas comme eux, c'est des hérétiques, c'est l'apostasie et tout ça. On peut juste trouver des sites qui sont du côté académique et ça va être beaucoup moins chargé et beaucoup moins de dénigrement. C'est important aussi de se rappeler qu'on est tous en marche, frères et sœurs, qu'on connaît en partie, qu'on est tous en marche dans notre compréhension des Écritures. On peut être en désaccord, en passant, on peut être en désaccord, on peut être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Quand même, c'est simple, mais c'est quand même efficace. Tu arrives au bout d'une conversation, je comprends ton point de vue, mais je ne le partage pas. Et restez calme. On peut être d'accord ou en désaccord sans répandre le sang. Et on rit, mais je sais, frères et sœurs, et je vous le dis, si vous n'avez pas encore, si ça fait longtemps que vous n'avez pas été confronté dans vos façons de voir les choses, là, la journée que vous vous asseyez avec quelqu'un qui a un point de vue différent de vous et que ça commence à vous brasser parce que vous réalisez qu'il y a des très bons arguments, ça brasse. Là, vous réalisez que ah, ben, ma position n'est peut-être pas si solide que ça finalement, puis là, on commence à être insécure. Et si vous êtes comme moi quand j'étais au début de mon mariage, moi, j'avais une technique extraordinaire d'échappatoire. Quand j'ai échangé avec ma femme, et la plupart du temps, 97 % du temps, ma femme avait raison, on échangeait, puis à un moment donné, dans ma tête, il y avait « ting », ça allumait de dire « hey, je suis vraiment dans le champ, c'est elle qui a raison. » Savez-vous ce que je faisais? Je virais de bord, je m'en allais. Christine voulait m'arracher la tête quand je faisais ça. Christine a toujours été dans le mode, c'est « dis-moi où j'ai tort, ou sinon donne-moi mes points. » Elle allait voir ses professeurs au secondaire, au cégep, elle avait ces genres d'arguments-là. Fait que quand moi, je virais de bord et je ne donnais pas ses points, là, elle voulait m'arracher la tête. Jusqu'au jour où j'ai appris à dire, et ça a vraiment été, je n'ai déjà parlé à l'église dans le passé, ceux qui m'ont déjà entendu parler de ça, jusqu'au jour où sur le divan, je me rappelle à Saint-Romuald, dans l'ancien appartement à Hugo et Geneviève, j'étais assis sur le divan, et là j'étais encore dans le même pattern, et je savais le ting, ça allume, j'ai pas raison, j'ai tort. Puis là, j'ai comme pris conscience de ce concept-là. Puis là, je regarde ma femme, puis là, je sais qu'il faut que je lui dise qu'elle a raison. Mais j'ai dit, je vais mourir si je dis ça. Et ça a vraiment pris tout mon petit change. Puis à un moment donné, juste de mémoire, le souvenir que j'en garde, c'est que j'ai pris une grande respiration. Comme si j'étais pour mourir, ma dernière respiration de vie, tu sais. T'as raison, Christine. Et j'ai survécu. C'est merveilleux. Ça a vraiment... J'ai réalisé à ce moment-là... C'est un pattern dans ma vie depuis que j'étais enfant. Il faut croire que j'avais appris ça quelque part, que c'était comme ça qu'on argumentait, puis quand on n'avait pas raison, on s'en allait. Puis là, juste de dire, hey, t'as raison, c'est correct. J'avoue que j'ai tort, tout ça, puis c'est un super bon point que tu m'as apporté, et ça l'amène beaucoup de paix dans un couple d'ailleurs. Fait que s'il y a des couples que vous reconnaissez, mais s'il vous plaît, comme la conférence le disait, gardez votre amour on, la conférence de Danny Sick en fin de semaine. Donc, on peut être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. On peut être en désaccord sans répandre le sang. Et comme on a dit, aujourd'hui, on connaît en partie et un jour, on va être connu. Un jour, on va connaître comme on a été connu. Le psalmiste dit, « Qui connaît ses égarements? » Psaume 19, 13. « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » C'est difficile de savoir qu'on ignore quelque chose. Parce que le principe d'ignorer quelque chose, c'est qu'on ne sait pas qu'on ignore quelque chose. Donc, les angles morts, ça existe même aussi dans notre vie chrétienne. Donc, c'est important d'être humble et d'avoir de l'ouverture parce qu'un frère ou une sœur peut amener une perspective qui nous permet de voir dans notre angle mort. J'encourage, frères et sœurs, comme disait Jésus en passant, que quand on rencontre des frères et des sœurs qui ne croient pas comme nous, qui n'est pas contre nous est pour nous. Que ce n'est pas à cause que j'ai un frère ou une sœur qui est devant moi qui ne croit pas la même chose que moi, et que peut-être que lui est dans la culture populaire qui me méprise en raison de mes convictions pentecôtistes, en raison du fait que je crois dans les dons spirituels, que je crois que Dieu remplit du Saint-Esprit, que Dieu fait une œuvre, toute la question des dons spirituels, mais que qui n'est pas contre nous est pour nous. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Ne vous laissez pas distraire, restez centrés sur Jésus. L'apôtre Paul va écrire à son disciple Timothée, il va lui dire, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, Timothée, la raison pourquoi je t'écris ça, Timothée, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses-là, un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Manque de perspective. Autrement dit, ces gens-là faisaient partie de la culture populaire du temps. Ils manquaient de perspective, mais Paul était du côté académique, il était du côté de la culture académique. Il va dire à Tite, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles et les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. L'apôtre Paul va dire aussi aux Philippiens, « Si donc nous sommes des gens accomplis, tenons-nous à cette pensée. Et si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. » Avançons ensemble. L'importance de se rappeler les bases. Alors que j'arrive à la fin de mon message, frères et sœurs, il y a des gens qui sont des fervents consommateurs de théologie, aiment les débats, aiment tout ça. Et parfois, ils aiment tellement ça qu'ils en oublient la base, le B.A.B.A. de la vie chrétienne. Le B.A.B.A. de la vie chrétienne, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Quand on est rendu à un point et qu'on manque de respect et d'honneur à l'égard d'un frère, un frère ou une sœur qui ne pense pas comme nous et qu'on oublie la base même de la chrétienté, le commandement, le seul nouveau commandement que Jésus nous a donné, il y a un problème. On est appelé à appliquer le principe de l'amour. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Aimez-vous les uns les autres. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 13, sur l'amour, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je vous donne un commandement nouveau, dit notre Maître Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Que même si un frère, et soeur, un frère ou une sœur qui ne croit pas comme moi, aimons-le, aimons-la. Car à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, j'aimerais te prier pour mes frères et mes sœurs à ce moment-ci. Je n'ai aucun contrôle, Père, sur ce que mes frères et sœurs peuvent visionner sur Internet. Je sais qu'il y a toutes sortes de choses qui circulent, toutes sortes de choses qui sont dites, qu'il y a la réalité de la culture populaire qui utilisent beaucoup les plateformes sur Internet pour promouvoir toutes sortes de choses. Je prie simplement pour du discernement. Je prie aussi que tu puisses donner à mes frères et sœurs d'avoir ce cœur ouvert et d'avoir des frères et sœurs avec qui ils peuvent échanger, des frères et des sœurs peut-être qui sont plus du côté de la culture académique, qui vont être capables de leur donner plus de perspectives sur les débats qui ont lieu sur Internet ou dans les livres, Seigneur. Et je prie que par-dessus tout, on puisse toujours demeurer des disciples avec un cœur ouvert. Un cœur ouvert. Seigneur, on est juste béni que toi, tu es la vérité. Et que ça, c'est rassurant. Et on veut juste, Seigneur, te demander, continue à nous enseigner. On veut demeurer des disciples qui apprenons, qui continuons à apprendre, continuons à apprendre. On ne veut jamais arriver au point où on a l'impression d'avoir fait le tour du proprio, comme on dit au Québec. Seigneur, je prie vraiment, garde-nous dans l'humilité. Garde-nous, Seigneur, comme étant des véhicules d'amour intense pour les frères et sœurs qui divergent dans leur opinion et qu'on puisse toujours être pleinement conscient de ce mandat-là que nous avons reçu de ta part, de nous aimer les uns les autres. Seigneur, on prie pour ta grâce. Je prie pour ceux et celles qui ont peut-être visionné des choses, lu des choses dans les dernières semaines, derniers mois, qu'ils ont été troublés. Je prie, Père, que tu puisses vraiment donner ta paix à ces gens-là, donner des gens aussi qui vont être dans leur donner la sagesse d'aller voir des gens peut-être qui vont les aider à voir plus clair dans tout ça, et vraiment juste être rassuré sur le fait que tu es encore sur ton trône, comme disait l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Il y avait dans le ciel un trône, et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Et tu sièges encore ce matin, Seigneur. On te bénit, Père, pour le fait que tu es souverain, que tu es en charge, que tu n'es pas dépassé par les différents points de vue dans ton corps. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus.
Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva-québec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.